Chapitre 70. Samedi 30 novembre 2013. 3 heures du matin, quelques heures plus tôt. 2 puissants halogènes à batterie éclairaient la scène de crime comme en plein jour. 4 techniciens de l'identité judiciaire, sous l'autorité d'Olivier Fortran, terminaient leur prélèvement. D'autres renforts, et le numéro 2 de la police judiciaire, la Mordier, étaient arrivés pour constater tout sécurisé, lancer des procédures, donner un coup de main. Les équipes disloquées de Bélanger et de Marnier ne pouvaient plus y arriver seules. Le corps de Camille avait été décroché, et Chesnay murmurait dans un dictaphone, accroupi à ses côtés. Il y avait, sous ces sols maudits, comme un souffle de recueillement. Personne ne parlait. Chacun avait été arraché de son lit et faisait son job en silence. Mais une question traversait tous les esprits. Comment des êtres humains munis d'une intelligence pouvaient-ils en arriver à de tels extrêmes? Franck Charcot s'était adossé à une paroi, les genoux pliés et un peu écartés, de façon qu'il puisse laisser pendre ses mains dessus. Une autre fresque était dessinée en face de lui, des démons hideux, mi-humains, mi-animaux, qui brûlaient dans un grand feu rougeâtre. Franck n'arrivait pas à se relever, à s'approcher du corps pour constater les multiples plaies. Il savait juste que Camille avait dû quitter ce monde dans des conditions abominables. Il ramassa une poignée de gravier qui traînait par terre et l'égrena entre ses doigts. Il avait déjà vécu l'enfer que Nicolas allait vivre. C'était atroce. Bientôt, il devrait se relever et poursuivre le combat. C'était le seul moyen de se rapprocher des assassins, de faire que la mort de Camille ne soit pas vaine. Ses yeux tombèrent sur l'arme dans son holster posé à côté de lui. Elle appartenait à Nicolas, son chef et ami. Le capitaine de police devait être à l'hôpital à l'heure qu'il était, sous calmant. Il n'avait pas attrapé la grippe, mais une maladie bien plus sournoise, plus destructrice, allait coloniser son organisme, son esprit, et transformer chaque lueur en lumière noire. Il aurait besoin de soutien. Beaucoup de soutien. Bertrand Cazut se détacha de ses nombreux collègues sur place et vint s'accroupir à ses côtés. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes, très perturbé lui aussi. L'enfer existait. Il venait d'en ouvrir les portes. Lui aussi ramassa quelques gravillons, les lança devant lui en direction de la fresque diabolique. Dire qu'il avait quitté longtemps auparavant la brigade financière parce qu'il s'y ennuyait, qu'il avait eu envie de davantage de piment dans sa carrière.
L'homme oiseau a enlevé Camille. Et c'est l'homme en noir qui nous a conduits dans ses carrières. Les deux bossent ensemble. Ils se connaissent, c'est sûr maintenant.
Les genoux de Charcot craquèrent lorsqu'il se releva. Claude Lamordier, leur boss à tous, observait l'ensemble avec une froide colère dans le regard. « Il a fallu beaucoup d'énergie et surtout du temps pour préparer un truc pareil, » poursuivit Cazut. « Tout ça, toute cette mise en scène qui nous était destinée, comment il pouvait savoir qu'on viendrait ?»«
D'ambre. »
Mais comment Dambre aurait-il pu leur transmettre l'information? Il n'a jamais utilisé l'ordinateur et il n'y avait rien de suspect dans ses propos.
Charcot fut traversé d'un petit vertige. Il s'appuya sur le mur, une main posée sur le crâne. Cazut vint le soutenir.
Ça va?
On ne peut pas dire que ça va.
Ce n'est pas la grippe, au moins.
Rien qu'à entendre ce mot, Franck en eut une suée. Il se redressa et essaya de tenir sur ses deux jambes.
« Non, non, enfin, je l'espère. J'ai rien dans le ventre, j'ai soif, je suis crevé. »
Ses yeux fixaient les deux hommes de la morgue qui plongeaient le corps ensanglanté et nu de Camille dans un sac noir. Quelle image ignoble! Ils remontèrent la fermeture éclair d'un coup sec. Une grosse boule se serra dans le ventre de Franck. Il savait pertinemment où l'on emmenait la jeune femme. Là-bas, dans les grands tiroirs si froids et obscurs du quai de la Râpée. Le légiste ne l'épargnerait pas plus qu'un autre. L'air lui manquait. Ses figures de diable, ses plafonds écrasants, l'éclat froid des halogènes lui tapaient sur le système.
Il fit un réel effort pour tenir, mais il n'avait qu'une hâte, retrouver les siens, les serrer dans ses bras. Dans la pièce d'à côté, il remarqua qu'un technicien était assis, mal à l'aise. Charcot l'avait croisé à plusieurs reprises ces derniers temps, y compris dans les égouts. L'homme, la trentaine, grimaçait, se tenant le crâne.
« Qu'est-ce qui se passe ?»«
Nouvelle victime de la grippe à coup sûr, » fit Fortran. « Il tient difficilement debout. » « Il est temps qu'on se repose un peu. On en a tous besoin. » Fortran retourna à sa tâche, tandis que Paul Chenet s'approchait après s'être débarrassé de ses gants.
« J'ai déjà fait un paquet de relevés et de déductions. J'attaquerai l'autopsie pour 10 heures.
Faites-moi plaisir. Attrapez-les. »
Chenet ne tenait jamais ce genre de propos, pas plus qu'il ne s'impliquait émotionnellement. Mais lui aussi était touché, ébranlé par la mort de Camille, parce qu'elle faisait partie de leur famille. Il embarqua son sac de matériel et s'orienta vers la seconde salle, puis disparut. Charcot resta là, immobile, alors que la rage montait en lui. Il renifla sa veste qui sentait mauvais, regarda ses mains sales qui tremblaient encore. Il plaqua l'arme de Nicolas dans les mains de son chef, le divisionnaire Lamordier.
« Je retourne au 36. »
« Quoi faire ?»«
Voir d'ambre. Il a forcément transmis l'information d'une façon ou d'une autre. Il faut comprendre. »
Lamordier hocha le menton vers Cazu et un autre officier dénommé Blancard.
« Très bien. Vous allez avec lui. Qui se charge d'assister à l'autopsie ?»
Charcot songea très fort à Nicolas. C'était cette pensée qui allait le maintenir vivant, lui. Qui allait le pousser à ne pas lâcher, à se battre pour que les fautifs paient. Même si affronter le cadavre de Camille allait sans doute l'ébranler, il lâcha d'une voix qu'il voulait aussi assurer que possible.
« Je le ferai.
Je viendrai aussi, » fit Cazu.
Charcot lui adressa un petit geste de remerciement, puis gonfla ses poumons. Il fixa son chef au fond des yeux.
Elle a des parents. Ils habitent Argelès. Il faut les prévenir, mais ça, j'en suis incapable.